Développement professionnel des enseignants et leadership scolaire avec François Muller. Salut à toi, bienvenue sur Leader dans l'enseignement catholique, le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée. Prêt ? Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Et voilà, bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci à celles et ceux qui m'envoient des messages bienveillants et des messages d'encouragement. C'est mon carburant pour poursuivre ce podcast. Aujourd'hui, je te propose un entretien avec François Muller, expert reconnu du développement professionnel des enseignants et du leadership. Et nous allons discuter de tout cela. Alors, je t'invite donc à écouter, telle une petite souris, notre conversation. Bonjour François, comment vas-tu ?
Bonjour, bonjour. Je vais bien. Comme je suis avec vous et la communauté des leaders, comme tu le dis, on va en parler. Je suis bien. Je suis bien avec vous. C'est des gens avec qui je travaille depuis très longtemps et avec qui je continuerai à travailler parce qu'il y a beaucoup d'intelligence au sens que beaucoup de d'implication et aussi beaucoup de questions. Et on est là pour en parler.
Eh ben, pour commencer, peux-tu nous dire comment on devient François Muller ? Bref, présente-toi.
Oh là ! Question tout à fait inattendue. Comment on devient ? Ça fait maintenant plus de 40 ans que je travaille sur les questions d'éducation et donc j'ai fait un parcours classique de très bon élève, on va dire comme ça, mais comme pas mal de gens ici dans la maison. Ce qui a été un peu particulier, c'est que très tôt, dès lors que j'ai travaillé sur les questions d'éducation, j'ai vu que le cadre bougeait beaucoup. Donc c'est la fin des années 80. Et très tôt, j'ai fait des choses en tant qu'enseignant et on est vite venu me chercher en disant « Muller, il faut que tu fasses autre chose. » Voilà. Moi, j'étais très bien avec mes élèves et je ne suis pas venu par dépit à faire autre chose et qu'on est venu me tirer par le haut d'une certaine manière en disant « Écoute, il y a des établissements qui ont besoin de faire des choses. » Ça n'existait pas à l'époque, c'était sur Paris. Et on dit, il faut que tu t'occupes d'équipes qui vont pas bien, etc. Donc, on m'a demandé à travailler sur des... On parlait à ce moment-là de formation sur site, mais le mot n'était pas le bon. C'est vraiment des questions d'intervention sur site auprès des équipes. Ça s'est fait assez vite. On m'a dit, Muller, il faut que tu fasses autre chose. Et donc, d'inventer finalement le travail et donc de travailler sur les questions d'innovation à l'époque. C'est comme ça que ça s'appelait. Et là aussi, le mot n'est pas bon. On va voir qu'on va faire des jeux de mots un peu risqués dans notre entretien. Et de travailler sur finalement l'accompagnement au changement. Mais il faudrait le dire comme ça, des équipes, des premiers, second degré. Et là aussi, j'ai travaillé énormément à l'élargissement du cadre en montrant que ce qui travaille au sens quasiment tellurique, l'éducation et les métiers, ce sont des tendances, des processus qui sont à l'œuvre et qui touchent autant le premier que le second degré, au-delà des spécificités reconnues par ailleurs. Et donc, c'est cet accompagnement au changement qui fait que j'ai pu progressivement travailler sur différents chantiers Alors je parle du terme de chantier parce que ma formation initiale, j'étais archéologue, j'étais historien archéologue. Et donc, ça te fait rire, mais c'est pas innocent. C'est-à-dire que l'historien archéologue est très différent de l'historien archiviste. L'archiviste, il est persuadé que la vérité se trouve dans les textes écrits et que rien n'existe ce qui est écrit. L'archéologie dément complètement cela. C'est-à-dire que je peux passer du temps important à être sur le terrain, et vraiment les pieds dans la boue, mais j'ai ici des traces matérielles qui démentent à un moment donné très formellement ce qu'on a dans l'écrit. Et donc, d'une certaine manière, on arrive à construire de l'histoire et construire vraiment une vérité qui est plus complexe, plus systémique, à partir de ce qu'on trouve sur les terrains et à partir des terrains, c'est-à-dire que c'est l'exploration de terrains successifs et le temps passé qui fait qu'on arrive à faire l'histoire. Ben, je suis en train de te raconter mon histoire. C'est-à-dire que finalement, sur les 40 ans, après, donc on m'a dit encore une fois, Muller, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne vas pas au national? On m'a demandé de venir au niveau national pour travailler sur des choses que je faisais en grande partie déjà dans beaucoup d'académies et d'élargir aussi sur le champ international que j'avais fait encore une fois avant. Et donc, c'est ça aussi l'archéologie, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis, c'est-à-dire d'aller chercher. Quand je ne comprends pas ce qui se passe sur le terrain, d'aller voir ailleurs comment ça se passe et comment on apprend finalement de l'expérience d'autrui. Et donc c'est tout ça, de mettre ça en réseau. Ça veut dire que que l'Internet existe, le produit des enquêtes finalement et du travail a été partagé sans qu'on le demande. Et donc tout ça, je vous l'ai dit, ne faisait pas partie du prescrit, de la commande qui m'a été faite, mais de l'invention finalement du travail. Et d'expérimentation du travail qui est fait sur place. Et donc, c'est accompagné de larges écrits. Et donc, sur l'Internet, vous avez des milliers de pages, il faut le dire comme ça. Et grâce à l'accompagnement que j'ai pu avoir avec André de Peretti, j'ai bénéficié pendant 25 ans de la présence et de l'activité conjointe avec André Peretti, qui a donné de nombreux livres. Et donc, j'ai beaucoup de livres qui ont été publiés, à peu près une dizaine, dont la dernière édition que je ne sais pas si tu peux connaître, qui s'appelle Le manuel de survie à l'usage de l'enseignant même débutant. C'est un manuel qui a été primé par l'Académie française, un de ces manuels évidemment d'éducation reconnu par l'Académie française. Oui, donc pas par l'éducation nationale, par l'Académie française. C'est assez intéressant de voir ça. Et le titre est intéressant parce que c'est notre sujet, le manuel de survie. Ce n'est pas une bouée de sauvetage pour les gens qui vont se noyer. C'est au contraire, c'est un jeu de mots à la Lacan. C'est de la survie, c'est-à-dire c'est de l'augmentation de la vie professionnelle, l'augmentation du potentiel d'action des enseignants. Et quand on est même débutant, c'est le jeu de mots pour dire que ça concerne l'ensemble du métier dans une dimension très professionnalisante et très transversale, c'est-à-dire qu'on s'y retrouve, que ce soit du primaire ou du second degré, on retrouve les 30 compétences actives, plus ou moins activées, suivant les contextes, et il est largement nourri précisément des enquêtes de terrain. C'est parce que j'ai entendu et je continue de travailler sur l'écoute, l'analyse et l'accompagnement des équipes sur le terrain, qu'on devient intelligent parce qu'on partage d'abord les questions professionnelles, les questions qui sont très contemporaines, elles sont souvent percutantes, elles sont souvent lancinantes, et précisément, on va dire, l'expertise des équipes et donc des directions, on va en parler, c'est le lien, c'est de savoir, de connaître d'abord, d'identifier quelles sont les questions qui prennent la tête, vous voyez, qui sont sans réponse. Et donc, si vous êtes capable d'identifier deux, trois questions qui sont sans réponse dans votre équipe, c'est le début finalement du processus qui est que quand on devient leader, quand on passe du management au leadership, si vous voulez, quand on se met en situation d'écoute active, c'est pas pour faire la paix, c'est pour au contraire s'embarquer dans une aventure où on va d'abord partager des questions. Elles sont sans réponse parce que je n'ai pas la réponse. Parce que nous allons enquêter pour faire et partager quelque chose qui est un voyage. On parle souvent de voyage professionnel. C'est une métaphore qu'on utilise beaucoup. Sur l'internet, vous envoyez même des vidéos, mais on embarque ensemble. Dans le mot Le mot même d'équipe est assez intéressant. Il est utilisé depuis, il est abusé depuis une quarantaine d'années dans les textes, mais c'est un mot qu'il faut prendre au sérieux. L'étymologie, elle est intéressante. Je ne sais pas si tu la connais, l'étymologie
Non.
de l'équipe. Ça vient du norrois. Le norrois, c'est la langue des Danois, la langue des hommes du Nord, c'est les Vikings. Et donc, c'est un mot qui vient de skip. Ça donnait skipper, par exemple. Oui, ça donnait esquif en français. Et donc, dans le mot équipe, on y voit bien la métaphore thalassocratique, la métaphore de la navigation, où dans un navire de guerre de la marine américaine, par exemple, ça a été repris dans la recherche internationale, on voit qu'il y a bien une partition des rôles et des responsabilités, où chacun a son potentiel important d'importance. Son potentiel de, on va dire, de catastrophe. Si le petit marin ne fait pas bien son boulot, la batterie explose. Vous voyez, donc chacun a son bord, chacun en interaction avec l'autre, en grande solidarité, et avec il faut à un moment donné qu'il y ait un gouvernant, un gouvernail. Le gouvernant en grec s'appelle le pilote, pilota, et ça a donné le mot pilote, ça a donné. Donc, quand on parle d'équipe, c'est tout ça. C'est d'abord un travail, non pas comment dire, de statut. Sur les statuts, c'est pas une chose rigidifiée. C'est un travail très fonctionnel pour assurer une mission, pour se sortir de la des moments difficiles ou des mers un peu tempétueuses. Quand c'est bien piloté, un bateau, ça sort, ça s'en sort. On arrive à s'en sortir. Voilà. Quand il y a des erreurs de navigation, elles peuvent venir de n'importe quel bord, finalement, eh bien, ça devient difficile. Voilà. Et je me suis présenté.
Voilà. Alors déjà, en plus, tu t'es présenté, mais tu as dit beaucoup de choses. J'ai plein de questions, mais je voudrais, puis en préparant cet épisode juste avant, je vais moi me concentrer sur un sujet précis. C'est le sujet du leadership, parce que pour moi, le leadership, en fait, c'est une relation entre deux personnes, enfin, à minima, puisque dans une équipe, on peut estimer qu'il y a plus de personnes, mais comme tu me l'expliquais, c'est pas un statut. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est pour toi le leadership, et puis en quoi, contrairement à un manager, ça peut emporter une équipe sur une autre rive et donc la transformer.
Alors, il faut faire vraiment très attention, et c'est bien de consacrer un peu de temps à ça. On a un problème avec les mots en France, parce que notre langage, il est à la fois très précis, c'est pour ça que c'était un langage diplomatique, dans l'ancien temps, depuis on n'a pas fait le deuil, et il a du mal à évoquer les évolutions. Donc on a notre langage en français, le choix qu'on a dans notre monde professionnel d'éducation est quelque chose d'assez figé et statufié, ou statué. Donc on a à voir avec les statuts, hein, les statuts de la fonction publique, les concours, et on envisage ça plus en forme de statut qu'en termes de fonction et de dynamique. Eh bien, leadership est partie de cela. C'est-à-dire que leadership n'est pas un mot français, par exemple. Et quand les collègues qui entendent ce mot-là, souvent d'abord ne l'emploient pas, et quand ils l'emploient, ils essaient de faire la passerelle, de le traduire par direction, et ça renvoie directement à directeur. C'est-à-dire qu'on assimile, on attribue directement le leadership à une personne en disant bah, direction, directeur, directeur management, ça y est, donc leadership finalement c'est du management. Management est un vieux mot français, c'est pas un mot anglais. Donc, et on est en plus soupçonné de faire du néolibéralisme.
Oui.
C'est un mot, on dit, vous êtes les agents du néo-capitalisme, c'est donc un monde qui est marqué de valeurs qui ne sont pas forcément celles-ci. Et donc, on entre on est supposé être les suppôts finalement d'agents de transformation dormants. Il y a du complot derrière. Donc on peut en rire, mais il y a ça dans la tête. C'est pour ça qu'il faut peut-être essayer de travailler sur des traductions un peu différentes et de prendre un peu de temps pour d'abord voir comment les choses se passent sur le terrain. Quand j'ai évoqué la dimension un peu archéologique du métier, c'est dit, eh ben, dis-moi d'abord ce que tu fais ou comment tu le fais, quelles sont tes questions, est-ce qu'on peut en parler? Et à partir de ça, on peut essayer d'avoir une sorte d'analyse un peu phénoménologique du travail et d'identifier ce qui a à voir, enfin, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi ou pour une équipe, et d'en distinguer les marqueurs finalement de ce qui pourrait être le leadership. Et donc, si je reprends une définition du leadership, c'est quelque chose qui vient en système avec d'autres mots, par exemple. C'est-à-dire, on va évoquer le développement professionnel tout à l'heure, on va évoquer les questions d'évaluation tout à l'heure. Donc, ça vient avec. C'est-à-dire que c'est pas tout seul. On va pas utiliser le mot leadership dans un système qui, par ailleurs, est complètement constant. Donc, c'est vraiment, il faut envisager le mouvement, l'évolution, la grande transformation. C'est le titre des livres qu'on avait édité il y a quelques années. La grande transformation silencieuse, une transformation à bas bruit, finalement. Alors, si je reprends ce qu'on va dire, enfin, ce qu'on peut dire dans la littérature internationale quand on parle de leadership, c'est d'abord un processus d'influence sociale. Donc, ce n'est pas un statut et ce n'est pas une décision. On ne peut pas dire toi tu es leader, toi tu ne l'es pas. Donc c'est d'abord un processus. Et quand on parle de processus, c'est quelque chose qui est assez puissant, qui est assez dynamique, qui se fait souvent à bas bruit. Et par exemple, pour vous donner un exemple, là nous sommes ici en visio pour les auditeurs qui nous écoutent ici maintenant. Et quand je te vois et quand je me vois, nous sommes tous atteints, tous les deux, d'un processus terrible. En gros, nous avons quelques caractéristiques communes, François. Outre le prénom, c'est que le cheveu se fait rare et la barbe est grisonnante. Voilà,
Voilà.
voilà un processus. Voilà. Bah, c'est un processus. On voit bien que tous les jours, rien ne change, mais si on prend le temps de la distance sur les 5 ans, sur les 10 ans qui sont passés, eh bien, on a quand même un peu changé. Et donc, c'est assez puissant. Donc, le processus, comme le leadership, c'est un processus d'influence sociale dans lequel une personne ou un groupe peut exercer une influence intentionnelle. Donc, ce n'est pas une action, ce n'est pas une décision. On est plutôt on joue sur la qualité de la relation et le nombre d'interactions. Donc, vous voyez que c'est beau. En termes de traceur, c'est plus difficile. Et donc, on exerce donc sur un ensemble, et donc c'est plutôt une dimension aussi groupale et un peu système. On peut parler d'écosystème. Donc, une école est un vrai écosystème, par exemple. Un collège est un écosystème. Et il faut l'envisager dans une dimension plus quasiment holistique, c'est-à-dire c'est un écosystème entre non seulement l'école elle-même, mais l'école et son territoire, l'école et sa communauté. Le terme anglais, c'est community. Les parents, les associations. Le terrain, l'environnement est important. Et donc, c'est tout ça. Et alors, c'est quoi l'influence intentionnelle? Ben, c'est en vue de quelque chose. C'est-à-dire que on veut faire mieux structurer, on veut mieux organiser. Donc, ça va toucher l'organisation. Donc, il y a une intention oui, de toucher l'organisation, de structurer, de changer quelque chose. Et donc, quelqu'un seul ne peut pas le faire. Un enseignant seul ne peut pas toucher l'organisation, comme un directeur seul ne peut pas toucher l'organisation. Donc, il y a bien une partition de rôle et de responsabilité où chacun dans son champ, à la fois d'activité, mais en coordination avec d'autres, vont pouvoir faire des choses. C'est dans une vue toujours d'amélioration ou de résolution de problèmes. Et donc, il y a plusieurs mots clés finalement dans cette équation du leadership. Donc, le mot processus, le mot organisation, le mot coopération, c'est-à-dire la dimension groupale des choses, et puis l'amélioration. Donc, voilà les définitions. Et donc, elle est suffisamment large et suffisamment générique pour essayer de qualifier des situations que vous vivez en ce moment, mais finalement sans en dire le mot. C'est un peu comme
C'est ça.
Gambetta, notre grand homme politique français, qui, quand il parlait sous la Troisième République de la revanche nécessaire contre l'ennemi allemand qui nous avait pris l'Alsace-Lorraine, il disait une chose qui était assez intéressante. Il disait, parlant de la revanche, hein, pensons-y toujours et n'en parlons jamais. Et donc, parce qu'il fallait reprendre, il fallait prendre sa revanche, mais il fallait surtout pas lui en parler parce que c'était contre-productif sur un certain nombre de plans. Eh bien, le leadership, c'est souvent ça. C'est ce qui est en train de traverser les organisations, de tirer les métiers. Et donc, sur le changement des métiers, on voit bien que en quoi le directeur d'école, par exemple, exerce un nouveau leadership, en quoi un chef d'établissement, c'est pareil, mais ça peut concerner aussi des enseignants
Dans leur classe, oui.
en classe, mais pas dans la classe, justement. Les enseignants sont pris dans peuvent être pris dans cette dynamique, j'allais dire, ce tourbillon, parce qu'il y a une dimension un peu tourbillonnante dans ces questions de changement. Il y a un peu de désordre, c'est-à-dire que quand on passe d'un ensemble très structuré comme l'est l'école française à quelque chose qui est en train de bouger, il va y avoir à un moment donné du réaménagement. Chez nous, on parlerait de homestaging, c'est-à-dire on prend les mêmes éléments, mais on va les redéplacer, les réaménager pour faire que ce soit mieux, soit plus éclairé, plus nouveau, plus aérien, etc. Et donc, il y a une dimension humaine qui est extrêmement forte. Et les anglophones qui parlaient de leadership disaient qu'il y avait les 3 H. Ils parlaient des 3 H. C'est une sorte de triangle. Avec les 3 H. Alors les H, on les connaît. Enfin, c'est facile maintenant qu'on tous regarder Friends à la télé et sans sous-titres, on est tous maintenant au niveau C2 en anglais. Et donc, il parlait d'abord de head, c'est-à-dire la dimension conceptuelle. Il faut comprendre ce que c'est, donc il faut avoir une vision, produire une vision comme ça. Il y a le deuxième H, c'est les hands, les mains, il faut mettre les mains, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'action et d'expérience. On ne peut pas rester comme le général d'Empire, non pas d'Empire, le général de l'Ancien Régime, en haut sur la colline, en train de regarder les petits soldats se faire tuer. Il n'y a pas de ça. Un leader, il est plutôt dans la mêlée. Il est plutôt dans la bataille. Hein. Donc, il est colonel au sens étymologique du terme. Il est en tête de colonne. C'est un colonel. Le général, il est derrière. Donc les hands, et puis le troisième H, c'est le heart, le cœur. Et donc il y a une dimension très personnaliste, on va dire, très, on pourrait dire, émotionnelle, subjective. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est intéressant moi j'ai toujours adoré travailler avec des équipes. C'est une dimension très spécifique, et la spécificité, c'est comment vous habitez le rôle finalement. Comment vous le faites à votre mesure? Comment c'est pas parce qu'on a passé un concours devant les inspecteurs généraux qu'on est les choses. Il y a une façon de faire les choses, une façon d'y mettre du cœur, le heart, le fait de trouver les mots, de trouver son propre style dans le genre de la direction. Il faut trouver son propre style finalement. Et c'est assez important. C'est même humainement facilitant. Oui, j'ai beaucoup d'histoires où, quand j'ai travaillé avec des chefs d'établissement, ils habitaient leur style différemment. J'ai un chef d'établissement qui a gouverné, par exemple, avec le chocolat. Et qui a véritablement changé. On l'avait nommé dans un établissement complètement dégradé à tout point de vue. En gros, c'était elle, ou alors on fermait l'établissement complètement, quoi. C'était la solution, la dernière chance. Et elle a, en l'espace de 2, 3 ans, rétabli l'établissement et l'a pacifié, il faut le dire comme ça, à la fois les élèves, les profs. Enfin, il y avait des situations qui étaient très dures. Et la façon visible de le faire, elle l'a fait avec. Pourquoi le chocolat? Parce qu'elle avait fait, par ailleurs, un stage chez le nôtre. Chocolatier, le nôtre, pas le tien, le nôtre. Voilà. Et donc, chaque fois qu'elle faisait quelque chose, qu'elle faisait un entretien avec un élève, ou alors qu'elle faisait une réunion pédagogique avec de résolution de problèmes avec une équipe, elle avait toujours du chocolat sur la table. Alors, c'était la manière visible de faire les choses, mais elle avait fait autre chose. Elle avait fait aussi un travail énormément au Canada sur la supervision et l'analyse. Donc, c'était autre chose. Elle avait du bagage, si vous voulez, avec elle, et qui fait qu'en l'espace de 3 ans, à la fois les trois H, on retrouve le Earth, le Hands et le Earth. Elle avait une vision, on a travaillé beaucoup ensemble justement sur ces questions de la vision. Elle y a mis les mains très clairement et elle a habité son rôle. Et donc là, on voyait qu'un établissement s'était vraiment rétabli. À la fois parce qu'on pouvait dire qu'il y avait un effet chef d'établissement qu'on connaît, ça, des choses qu'on connaît, mais c'était une équipe qui s'était rétablie. Elle avait construit véritablement une équipe et pacifié et permis à des élèves de mieux grandir. On le voyait très bien et ça s'est passé en 3 ans. Mais vous voyez qu'il faut du temps. Ce processus, c'est pas parce qu'on nomme quelqu'un qu'il va irradier complètement. Ça, c'est le mythe du sauveur. Ça, c'est très français aussi, hein, en disant. On personnalise la chose à outrance. C'est faux. C'est d'abord une dynamique collective. C'est d'abord un partage de connaissances, de compétences, mais souvent un partage des questions. Est-ce que j'accepte, moi, de dire que je ne sais pas faire et que nous allons le faire ensemble? Voilà. C'est donc la reconnaissance, finalement, de sa propre limite qui peut être très aidant pour construire une équipe plutôt que de dire je sais tout.
Oui, mais ça, c'est très troublant. Hein. Ça, c'est très troublant parce que chez beaucoup de personnes, justement, on attend du chef d'établissement d'avoir la réponse. Et quand celui-ci dit ben non, on va la trouver ensemble, des fois,
C'est très
ça
troublant. Ce
bouscule.
qui est troublant, c'est que on partage. Donc, on voit bien que ce qui est en jeu, c'est le partage de. Ce qui est en jeu, c'est le choc des représentations. C'est-à-dire que au-delà de situations objectives qui sont ce qu'elles sont, elles sont en ce moment plus ou moins dégradées. Depuis le Covid, on voit bien que les choses ne sont pas aussi évidentes qu'avant. Les questions d'autorité, d'organisation dans la classe, d'évaluation, toutes ces questions sont des vraies questions qui impactent tous les métiers, encore une fois. Et donc, on a une tendance assez française de s'en remettre d'attribuer à l'extériorité, finalement, des choses qui nous appartiennent. Et donc, une façon de se tourner vers le haut, de se tourner vers le chef, c'est de dire, finalement, moi, je ne suis rien, ou je suis qu'exécutant, ou c'est pas mon problème. C'est ce qu'on appelle une attribution causale externe, hein, en termes psychiatriques. Et ça, c'est la marque d'une profonde difficulté. C'est-à-dire que la situation est assez dégradée. Les collègues se trouvent dans une sorte d'impasse au niveau de la pensée, de l'analyse de la situation. Et donc, le premier travail, ce serait de se mettre autour d'une table et de ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire que quand on est dans des dynamiques de changement, c'est là où on va voir que le leadership, c'est travailler sur justement. À faire du groupe, mais à un moment donné, on n'a pas forcément toutes les ressources internes. Et donc, c'est là où de l'extériorité va apparaître. La capacité du leadership, c'est de travailler sur de l'accompagnement. Et là, je fais la connexion directe avec le terme que tu voulais me faire employer. Et un autre gros mot, qui est la question du développement professionnel. C'est lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler sur les questions de nouvelles directions, de nouveaux partages des rôles et responsabilités, sans que ça entraîne des questions autour des identités professionnelles, des compétences qui sont activées à ce moment-là. Elles pouvaient l'être avant germinatives, mais elles deviennent beaucoup plus importantes à ce moment-là. Et les questions de développement professionnel viennent de là. Or, le développement, là aussi, c'est du processus. C'est pas un mot. Les gens parlent de formation, par exemple, en disant, moi, j'ai fait une formation, etc. Et souvent, dans les textes, d'ailleurs, officiels, on a remplacé formation par développement professionnel. Et donc, les gens, les enseignants, les directeurs, les inspecteurs peuvent dire, bon, finalement, c'est la même chose. C'est une mode, et puis on l'a pensé comme ça. Assez clairement, Quand on va parler de développement professionnel, il y a de la formation, mais je vais vous donner un ordre de grandeur et vous allez comprendre. La formation participe à hauteur de 10% du développement professionnel. C'est-à-dire, quand on va parler de développement professionnel, c'est bien autre chose que la simple formation telle que vous la connaissez. La formation est un produit finalement assez périmétré. C'est une organisation, c'est un dispositif, il y a des convocations, il y a des moyens, etc. Vous connaissez, tout le monde connaît ce que veut dire formation, et d'ailleurs tout le monde est assez ambigu vis-à-vis de sa propre formation et vis-à-vis des formations, de ce qui existe actuellement. Il y a beaucoup de critiques sur ces questions-là, et donc il est possible que même les gens, beaucoup des gens ne se forment pas ou se forment plus, et on le voit bien de comment ça se passe en ce moment. Donc ça veut dire que il y a peut-être d'autres manières de faire évoluer un métier et de le faire évoluer ensemble, et qu'on connecte beaucoup mieux les questions d'évolution des métiers, des professions, de valorisation des compétences par autre chose que la formation stricto sensu. Et que la prise de compétence, quand on dit compétence, la prise de compétence, la compétence, c'est quelque chose d'un savoir agir reconnu, c'est comme ça que Lobotherf en parle, un savoir agir reconnu, c'est-à-dire que c'est en situation. En gros, ça veut dire que l'établissement devient de plus en plus le lieu où on fabrique de la compétence et le lieu du développement professionnel. Et donc, vous voyez bien qu'en disant ça, en disant que finalement, c'est avec les élèves, avec ses collègues, avec le chef d'établissement, le directeur, qu'on se fabrique collectivement de la compétence et que c'est un lieu du développement professionnel. Il y aura peut-être enjeu de quelque chose qui s'apparente de la formation, mais il y aura peut-être d'autres formes qui sont tout aussi formatives avec des effets et des impacts sur les personnels, comme sur les élèves, comme sur l'organisation, et qui participent du développement professionnel. Donc c'est une conception beaucoup plus globale, beaucoup plus systémique, et dans laquelle on peut faire apparaître des choses, par exemple, des choses que vous connaissez en ce moment, mais il faut mieux les raccorder et mieux les articuler pour voir que ça marche mieux. Travailler, par exemple, sur le développement professionnel, c'est faire en sorte et reconnaître et favoriser, par exemple, la prise de rôle par les enseignants. Alors, il y a déjà des rôles qui existent, le rôle de tuteur, le rôle de chef de projet, le rôle d'enseignant. Comment dit dans votre enseignement privé, on dit professeur principal, ça existe. Vous avez des managers intermédiaires comme les responsables de niveau, ça
Oui,
existe aussi,
tout
je
à
pense,
fait,
chez
oui.
vous. Voilà, vous avez des coordonnateurs d'équipe, des coordonnateurs de discipline, par exemple, des coordonnateurs. Donc tout ça existe de plus ou moins fonctionnellement, plus ou moins statutairement, ça dépend des règlements. L'enseignement public va être plus fonctionnel. Dans l'enseignement privé, je sais qu'il peut y avoir des contrats de travail qui peuvent produire ce genre de choses. Et donc là, on voit qu'il y a des rôles d'encadrement qui existent, et le fait d'exercer des rôles fait que l'enseignant stricto sensu est amené à sortir de sa classe. C'est-à-dire qu'on passe finalement d'un cadre de référence qui était moi, mes élèves, à quelque chose où l'enseignant, en exerçant ses fonctions nouvelles, va changer de cadre de référence. Il a à ce moment-là un cadre qui est plus large, qui va être un niveau, une équipe, va être aussi même souvent l'établissement. Quand on devient un peu responsable, on va dire numérique, par exemple, ou responsable des relations internationales, ou responsable culturel au niveau d'un établissement, c'est pas le chef d'établissement qui l'est, mais c'est un enseignant qui va être à la fois coordonnateur, instigateur, co-évaluateur, par exemple, de ces projets-là. Chef de projet, par exemple, c'est intéressant. Quand vous travaillez sur ce qu'on va appeler des dispositifs passerelles, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé avec des établissements privés sur les questions de dispositifs passerelles, c'est-à-dire comment faire réussir des élèves qui ne réussissent pas. Voilà, en gros. En gros, c'est comment on réinvente de l'école là où l'école a échoué. C'est un vrai sujet. Ça veut dire que finalement, vous avez un enseignant qui va animer une équipe avec le chef d'établissement. Le chef d'établissement se met en situation ici beaucoup plus d'accompagnateur que de chef-chef, parce qu'on va devoir, sur un module particulier, sur des élèves, réinventer de l'école. une école qui réussit enfin pour des élèves où l'école, on va dire, tradie n'était pas bonne. Donc il faut réinventer des modules d'enseignement, des contenus, des façons de faire, une organisation différente en termes d'horaire, des modes d'évaluation différents, des partenariats à l'extérieur. Vous voyez, on réinvente de l'école. Dans l'école, on réinvente de l'école. Là, on est vraiment sur le processus d'innovation. Vous voyez que le terme va arriver, hein. On parle leadership, on parle développement professionnel, innovation vient avec. Et oui,
Autre mot qui fait peur.
Autre mot qui fait peur, vous voyez que comment dire, je l'emploie que maintenant. C'est-à-dire que c'est pas là aussi un mot des acteurs. Quand on travaille avec ces équipes-là, elles ne parlent pas de ça. Elles disent pas on va innover, il n'y a pas un étendard de l'innovation, on n'est pas en train de marquer vue à la télé, ça n'a rien à voir. C'est d'abord, on a 30 élèves qui sont en train de nous pourrir l'établissement et on ne sait pas quoi faire. On fait quoi? Est-ce que chacun dans sa classe souffre et va prendre une troxane? Ou est-ce que on se pose sur la table, on dit où est-ce qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est capable de le faire, est-ce qu'on a envie de le faire, et comment on se construit une vision plus claire de ce qu'on voudrait faire. Tout seul, on ne peut pas le faire. Et justement, dans le développement professionnel, on va voir que l'accompagnement va être un facteur décisif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin de quelque chose, de quelqu'un qui soit d'une suffisante extériorité et qui viennent de façon assez régulière à côté de vous. Donc le mot accompagnement va venir de là. Il est plutôt à côté. Donc ce n'est pas un inspecteur qui vient voir en supervision, ni évaluer. Il ne participe pas à l'évaluation. Il est plutôt à côté. Et il va commencer à partager des questions. Et donc ce n'est pas non plus l'expert mondial, parce que s'il avait toutes les réponses,
Il n'y aurait pas de problème.
et ce ne sont pas forcément les bonnes réponses d'une seule manière. Il y a bien une relation assez particulière avec ce quelqu'un. Alors, dans la littérature internationale et dans beaucoup de systèmes qui ont travaillé sur ces questions-là, des systèmes qui ont vraiment fait leur révolution éducative, alors on parle beaucoup de l'Écosse, je ne vais pas vous parler de la Finlande, mais moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec la Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est un rôle qui existe. Et ce rôle s'appelle le critical friend, c'est le rôle d'ami critique. Donc, d'une certaine manière, François, quel est ton ami critique? C'est-à-dire que quel est l'ami critique de l'école? C'est pas à toi, c'est pas ton ami à toi, hein. C'est pas celui avec lequel tu pars en vacances. Ça n'a strictement rien à voir, hein. C'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous aider, pas toi forcément, toi en tant que chef d'établissement, mais qui va vous aider sur un terrain particulier que vous délimitez. Et qui va vous permettre de travailler et de mettre des mots sur ce que vous faites en ce moment. Donc, c'est quoi la situation qui vous pourrit la vie, ou quelle est la vision que vous avez envie de développer et qu'il faut dynamiser, énergiser, c'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là peut-être donner le cadre plus théorique, plus conceptuel qui vous permet d'avancer. Souvenez-vous les trois H. H, c'est head, heart et hands. Donc, Heart, vous l'y êtes. Hands, vous l'avez. Vous êtes en train de manipuler les choses, d'expérimenter, de changer. Il faut à un moment donné aussi du head. Ça veut dire, on va dire, des éléments un peu d'apport théorique. Quand je fais exprès de vous parler de l'autre bout du monde, par exemple la Nouvelle-Zélande, c'est intéressant parce que ça nous décale complètement. Et ça nous dit que finalement, sur des problèmes qu'on peut partager, les questions que nous avons localement sont des questions qui sont de niveau international. Les questions sur l'évaluation des élèves et l'évaluation pour les apprentissages est une question de niveau qui nous pourrit la vie en ce moment dans nos établissements, mais est une question de niveau international. Et donc c'est intéressant, à un moment donné, depuis que l'Internet existe, ça fait maintenant plus de 25 ans, trentaine d'années, de dire qu'on partage des éléments d'intelligence finalement et de compréhension du système beaucoup plus qu'on ne le faisait il y a 30 ans. Donc en gros, il faut accepter que nous soyons français, oui français, sans doute plus universel, si nous le pensions, sans doute plus universel, mais avec des vraies particularités. Donc il faut être fier à la fois de ce que nous sommes, dans la culture que nous portons, dans l'histoire que nous portons. Beaucoup des systèmes n'ont pas cette histoire-là. Et en même temps, il faut bien comprendre que ce qui est en train de nous traversée, c'est beaucoup d'autres choses qui ne sont pas entre guillemets français. Et donc on voit bien que l'approche compétence, l'histoire du socle commun, nous avons dit socle commun, mais c'est pas comme ça qu'on en parle. Les questions autour des nouvelles gouvernances dont on parle, donc ici de leadership un peu systémique, les questions d'innovation, sont des choses qui viennent percuter un système qui est assez ancien, qui faille, qui n'a pas suffisamment bougé. Et justement, d'une certaine manière, un peu, j'ai évoqué la métaphore tellurique, et là, vous connaissez tous la faille de San Andreas, on sait que du jour au lendemain, la Californie peut disparaître. Et donc, et on voit bien comment ça, la logique de la Terre et la logique terrestre est une logique du mouvement et pas de la stabilité. Et donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais moins ça bouge, plus ça va bouger. Et oui, et donc, quand notre système éducatif est un système qui s'est progressivement rigidifié, qui s'est gelé d'une certaine manière et qui a retardé un certain nombre de changements depuis les années 90 à peu près. On le mesure à peu près. Il y a une sorte de décrochage, non pas des salaires, ça c'est vrai, que les salaires ont décroché, mais oui, il faut en parler aussi, hein, parce que c'est lié hein, quand même. Si les gens s'accrochent à un moment donné à des choses ou commencent à être réticents, c'est parce qu'il y a quelque chose autour de la reconnaissance du travail et la valeur du travail. Donc c'est profondément lié. Donc je ne suis pas du tout en train de faire un discours syndical, j'essaie de comprendre dans quel état nous sommes en ce moment sur ces histoires de changement. Et donc quand on change, c'est qu'on a intérêt à du changement d'une certaine manière. Et donc je ne parle pas d'intérêt financier, pas du tout ça. Mais les enseignants adorent comprendre ce qui se passe, ils posent constamment des questions et sont pleins de cela, c'est connu ça, tout ça. Et donc moins ça change, plus ça change. Et donc d'une certaine manière, travailler sur d'abord le partage, non pas des rôles, mais le partage des questions. Quelle est la question qui nous partage enfin, que nous partageons en ce moment? Est-ce qu'on est capable de répondre à ça? Bien souvent, on ne s'est même pas posé la question, on n'ose pas avoir ça. C'est-à-dire que on va rentrer, et les directeurs, les chefs d'établissement vont rentrer souvent par l'organisation. Bon, bonjour, bonne rentrée, je vous distribue les emplois du temps. Voilà. Et donc tout le monde, chacun chez soi, et l'emploi du temps, terriblement dans le second degré, c'est terrible, c'est l'expression directe de l'émiettement du travail, de la parcellisation des tâches et de l'effacement du sens finalement. Tous les psychiatres et les analystes du travail nous en parlent. Le sens se construit en action, se construit avec, par et pour les gens. Et donc, travailler sur un aspect strictement organisationnel et strictement méthodique du travail, c'est annihiler le travail. Et donc, rien n'est prévu finalement pour construire du collectif. Et regardez un emploi du temps, regardez Pronote, où est-ce que le collectif et le commun, le sens commun, au sens qu'on partage du sens commun, où ça existe? Ça n'existe pas. Dans l'organisation du travail, ça n'existe pas. C'est un supplément d'âme. Et donc, c'est vrai que dans l'enseignement privé, on insiste, comme c'est plus petit, on est plus suffisant, plus isolé, on va plus travailler sur la production du projet éducatif dont tu as parlé tout à l'heure, mais ça n'existe pas en soi. C'est-à-dire que finalement, dans le développement professionnel, on va retrouver la nécessaire régulation. C'est le fait que de partager ensemble et de façon régulière, de façon plus analytique le travail, un peu comme le fait les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, on parle beaucoup des Olympiques, on va en parler, on va le voir d'ailleurs, quand vous prenez l'équipe de basket ou l'équipe de volleyball, vous avez toujours, c'est les joueurs qui jouent, on est d'accord, mais vous avez toujours l'entraîneur, le coach qui est à côté, qui ne les lâche pas d'un pouce, et qui va périodiquement demander et provoquer un temps mort. Intéressant, un temps mort, c'est le temps, c'est sûr, il y a un temps qui n'est surtout pas mort, ça veut dire qu'il interrompt le match. Il interrompt le travail pour que le travail puisse se faire. C'est-à-dire qu'il va analyser ensemble, dire moi, de mon point de vue, je vois des choses, qu'est-ce que vous voyez? Il y a un trou dans la raquette, ça ne marche pas, on est en train de se prendre une pilée, et comment on fait pour replacer les joueurs et retravailler sur la prise de balle et finalement marquer le point. On reprend le match et on marque le point. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, pour que le travail soit plus efficace, il faut que le travail s'arrête pour que le travail travaille. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Eh bien, si tout le monde comprend ça, et on voit bien qu'on est sur du haut niveau et sur de la performance, si on a envie d'être performant dans une équipe, il faut travailler sur ces régulations nécessaires et de voir et de montrer que dans le travail, il y a du temps de développement et d'analyse qui est prévu et que ce n'est pas un supplément d'âme. Les gens n'ont pas l'impression de faire quelque chose en plus ou de plus mal parce que ce n'est pas prescrit dans leur travail, c'est le travail. Et c'est précisément. C'est ce qui permet le travail. On voit bien que moi, j'ai pu travailler avec, par exemple, les équipes de l'hôpital Necker, les équipes médicales de l'hôpital Necker, pour aller voir. Je vous ai dit qu'il fallait aller voir ailleurs comment ça se passe. Eh bien, l'hôpital Necker, à Paris, qui est célèbre pour son secteur oncologie, donc les enfants malades, hein, et comment finalement on sauve les bébés. Donc, les enfants malades qui pouvaient mourir il y a des années de maladies. Grave, gravissime, mortel. Maintenant, on arrive à les sauver, mais les sauver en masse, on sauve 95% des bébés, des enfants malades du moins. Eh bien, ça vient d'une révolution dans l'organisation. Évidemment, aussi révolution médicale, dans les traitements, etc. Mais c'est pas que ça. C'est une révolution d'abord dans l'organisation. Et donc, l'hôpital était organisé comme un peu notre établissement à la française. L'hôpital était organisé par discipline. Il y avait l'anesthésiste, le chirurgien, l'oncologue, l'assistante médicale, l'institut aussi. Il y avait aussi l'institut. Mais ils étaient organisés par discipline et chacun dans son coin. Et donc, la révolution médicale a été de se mettre autour d'une grande table, vraiment, une grande table, tous ensemble, et de faire ce qu'ils appellent une CMD, c'est-à-dire une consultation multidisciplinaire. Ils sont mis autour de la table et ils ont mis au centre de la table les dossiers des patients. En disant, et chacun a la voix au chapitre, et chacun a une voix forte sur le chapitre du dossier. Et donc, la voix du chirurgien va porter autant que la voix de l'institut qui est en face, qui est chargé de la continuité pédagogique. Si l'institut en face n'a pas l'argumentation et la documentation nécessaires sur le patient, le chirurgien va la tuer, hein, clairement. Bah ça marche comme ça. Et donc, ça montre qu'en consultation multidisciplinaire, quand on focalise sur le suivi, le progrès et la réussite du patient ici, qui pourrait être par transposition de notre élève, eh bien, ça produit beaucoup d'effets et ça change complètement l'établissement. Donc, on voit bien que l'équipe s'est construite autour des élèves et non pas sur les questions de contenu ou sur les questions d'organisation, elle s'est faite différemment. Et donc, il n'y a pas eu un chef de service qui a décidé ça, il y a eu une communauté pour une vision commune, une vision partagée. C'est extrêmement intéressant de voir ça et de voir que ils ont développé chacun leur métier. Donc, ils ont été meilleurs dans leur propre métier, mais meilleurs dans l'interaction et dans le partage d'informations qu'ils avaient avec les collègues. Mais écoutez, transposer ça dans un établissement. Voilà. Vous avez la même chose. On a la même situation dans l'armée, par exemple, qui est une. Je ne veux pas beaucoup de l'armée parce que c'est une institution régalienne. Hein, quand on parle aux enseignants en disant, mais nous, c'est spécifique, nous, c'est national, etc. Ben, écoutez, l'armée, c'est une institution régalienne aussi. Hein. Et l'armée, on voit bien que ils ont armée de terre, armée de l'air, etc. Donc, ils ont aussi des disciplines très segmentées historiquement. Et on voit bien que dans les évolutions contemporaines de notre armée, désormais, ils travaillent beaucoup plus en opération. Alors, ils appellent ça des GTIA, des groupes techniques d'intervention armée. Donc, ça veut dire qu'ils ne procèdent pas en disant c'est l'armée de terre qui s'en occupe, c'est l'armée de l'air, mais désormais, la capacité et l'efficacité de notre armée à la française est plutôt reconnue pour ça. C'est la capacité à projeter, donc à intervenir sur une mission et à se déployer, un peu comme Star Trek, ils vont se déployer et téléporter des groupes techniques d'intervention, donc interarmes, et donc on va constituer une mission de 50 ou 100 hommes, on va puiser par les compétences, dans les compétences de chacun des corps, pour travailler sur l'effectuation d'une mission qui est bien identifiée, qui va bien être évaluée, et après on fait un retour de mission, ce qu'on appelle un rétex, et qui permet d'améliorer le système. Écoutez, un établissement, une école, est tout à fait en capacité de faire ça.
Ok.
De faire la même chose.
Alors, pour terminer un peu cet épisode, est-ce que tu pourrais donner un seul conseil, c'est très peu, à un chef d'établissement pour développer le leadership? son propre établissement.
Oui, alors tu me prends par là où ça fait mal, c'est d'être court alors qu'il faudrait faire plus long. J'écris pas mal de choses, donc, et on peut se retrouver sur le ou les blogs que j'anime,
Je mettrai
où
les
il y a
liens.
des conseils, notamment j'avais fait ce jeu de travailler sur les 10 conseils, et c'est pas en termes de conseils, parce que quand on est dans les métiers du conseil, on s'aperçoit que on le sait, on l'apprend très vite. Moi, je l'ai appris avec André Peretti, il avait 50 ans de plus que moi, donc grande révérence aux anciens. Il m'a dit toujours, le conseil n'est bon que quand il est demander. Voilà. Et donc, bien souvent, les gens ne demandent pas les conseils, et donc, je préfère plutôt poser des questions. Parce que la question que je peux poser est une question dont j'attends une réponse, je ne connais pas la réponse. C'est la différence avec un enseignant. Quand l'enseignant pose une question, il connaît la réponse, et d'ailleurs, l'élève le sait. Et une relation est assez biaisée dans cette histoire-là. Posons une vraie question et attendons vraiment, je suis vraiment intéressé par vos réponses. Et si tu m'obliges à un exercice qui est terrible, qui est de choisir une seule question. Et
Peut-être la première.
ce n'est pas la première, ça serait la dernière des 10 questions. Je produis 10 questions, mais je vais prendre la dernière. Parce qu'elle me semble peut-être résumer l'articulation qu'il y a entre justement leadership et développement professionnel. Elle est simple, elle est triviale, hein, mais c'est souvent les questions les plus simples qui sont les plus
Difficile.
délicates. C'est comment le savez-vous? Comment le savez-vous? Pourquoi elle est terriblement simple? Bon, elle est simple, mais elle est terriblement efficace. Parce qu'elle oblige à aller chercher autour de vous, d'abord chez vous, dans vous, mais après autour de vous, aller quêter des éléments d'information, de documentation, pour étayer ce que vous êtes en train de penser ou de dire. Comment le savez-vous? Quand vous dites j'ai mon établissement, j'ai ma vision, etc. Question, comment le savez-vous? C'est-à-dire, quelles sont les bases? Parle de documentation, c'est comme dans la recherche, il faut documenter votre recherche, c'est-à-dire les éléments. Qu'est-ce que vous savez de vos élèves? Ouais, moi, j'ai des bons élèves, certains sont en difficulté, comment le savez-vous? Voilà. Est-ce que vous avez posé la question aux élèves? Qu'est-ce que vous savez du sentiment d'appartenance des élèves? Et puis, du sentiment d'appartenance de vos profs? Comment le savez-vous? Vous voyez? Donc, ne serait-ce que d'aller, de travailler, de chercher à développer l'interaction et la connaissance mutuelle, bien vous avez une des clés du leadership. Et bien, une seule question, tu m'as obligé à me couper une main, mais retiens cette question, juste
Comment le
comment
savez-vous?
savez-vous? Ouais.
Parfait. Eh bien, grand merci. Merci beaucoup pour ta présence et pour tes précieux conseils. J'espère que cet entretien apportera à nos auditeurs eh bien, des éclairages précieux sur cette thématique du leadership, du développement professionnel. Et puis, ben, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, eh bien, tout d'abord, vous pouvez réagir sur les réseaux et puis y apporter vos suggestions et aussi retrouver François Muller sur son site internet, je crois que c'est françoismuller.net.
Voilà.
Et
Alors, c'est sans cédille, hein, c'est un francois.muller. Donc, il n'y a pas de cédille, mais c'est comme ça, .muller.net. Et puis, on peut tout à fait interagir. Encore une fois, ça n'engage à rien de prendre un contact et d'écrire et de poser une question. Moi, j'ai commencé comme ça. J'étais très questionnant. Tu m'as posé la question de comment on commençait. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'ai même pas la trentaine, on m'a demandé de faire des choses, je ne savais pas faire les choses, et donc j'ai posé la question, je suis allé vraiment chercher des éléments de réponse ailleurs. Ça n'engage à rien de poser une question et d'avoir de discuter. Beaucoup de choses arrivent après, et l'Internet le permet, c'est délicieux. Quand je vous ai parlé de la Nouvelle-Zélande, mon aventure avec la Nouvelle-Zélande a commencé comme ça, et maintenant je vais maintenant en Polynésie, de l'autre côté de la Terre aussi. Et donc ça a commencé d'abord par des gens qui ont dit, qui ont pris un contact en disant mais où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on peut parler? Ben oui, on commence à parler. Et puis après, comme on dit, et plus affinité.
Oui.
Voilà.
Très bien, bah merci encore François.
Merci François, merci pour ton invitation et puis salut aux collègues. On est très présent, très attentif à ce que vous faites. Un des livres que j'avais écrit sur la transformation disait que la transformation, elle se fait à bas bruit et elle se fait souvent par le bas. Et donc le bas, ça veut dire une expérience de terrain
De terrain.
incroyable. Et l'expertise, c'est d'abord la connaissance des terrains avant que d'être par le haut. Voilà. C'est pas... Merci
On
à
va rester, on
vous,
va terminer là-dessus.
à très vite, et puis à très vite sur les réseaux, François.
À très vite. Nous voici à la fin de cet épisode de Leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les discussions et conseils partagés aujourd'hui t'ont été bénéfiques et t'inspireront dans ton quotidien. Assure-toi de t'abonner pour rester à jour avec tous nos futurs épisodes. Ton avis est essentiel pour l'évolution de ce podcast. Je t'invite donc à partager tes réflexions, tes questions ou même à proposer des thèmes que tu aimerais voir abordés lors de nos prochaines émissions. Tu peux exprimer tout cela en laissant un commentaire ou en me contactant directement. Si tu as trouvé de la valeur dans l'épisode du jour, partage-le avec d'autres chefs d'établissement et amis dans le domaine. Merci de m'avoir accordé de ton temps aujourd'hui et je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission enrichissante de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.